Laudetur Jesus Christus.
Un signe d'espérance en cette année jubilaire, une église va être consacrée ce vendredi en Jordanie, sur les rives du Jourdain, vers un site identifié comme celui du baptême du Christ, la Béthanie au-delà du Jourdain. Notre invité en fin de journal est le père Rifat Bader, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Amman. Le Liban a un président, il s'appelle Joseph Aoun, le chef des armées. Alors concrètement, qu'est-ce que cela peut changer pour le pays du Cèdre? Les explications de notre correspondant à Beyrouth à suivre. Dans ce journal également, nous irons en Syrie où la Russie entend garder ses bases militaires. Aux États-Unis, la ville des anges, toujours ravagée par les flammes. Le changement climatique est une réalité, affirme le président américain. Et enfin, le retour de la chef de l'opposition au Venezuela. Elle aurait été arrêtée brièvement. La confusion règne aujourd'hui alors que Nicolas Maduro doit prêter serment.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire du Liban. Les premiers mots de Joseph Aoun, président élu du Liban. Après plus de 2 ans de vacances, les députés se sont mis hier d'accord sur un nom, sur le chef de l'armée, pour prendre le siège de président. Une élection presque inespérée qui arrive à un moment critique pour le pays du Cèdre. Confrontée à des défis d'ordre sécuritaire, économique et politique, et la présence finalement d'un chef d'État pourrait contribuer à améliorer la situation à tous les niveaux. À Beyrouth, Paul Ralifet.
La vacance à la présidence de la République pendant plus de 2 ans a entraîné un blocage des institutions à un moment crucial de l'histoire du Liban. L'élection de Joseph Aoun va permettre de nommer un premier ministre et de former un nouveau gouvernement en remplacement à celui de Najib Miati, chargé d'expédier les affaires courantes depuis mai 2022. Avec ses pouvoirs limités, le gouvernement sortant était pratiquement paralysé, alors que le Liban est appelé par la communauté internationale à effectuer des réformes économiques structurelles pour pouvoir bénéficier d'une aide financière. La formation d'un nouveau gouvernement va en outre relancer l'administration publique qui fonctionne au ralenti depuis des années et redynamiser le corps judiciaire. En sa double qualité d'ancien chef de l'armée et de président, seul habilité à signer des accords internationaux, Joseph Aoun pourra s'employer à renforcer la trêve avec Israël et accélérer le retrait israélien du Sud-Liban. Il pourra aussi négocier des accords avec les nouvelles autorités de Damas et relancer le projet de retour de 2 millions de réfugiés et déplacés syriens accueillis au Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et les réactions de la communauté internationale sont nombreuses après cette élection au Liban. Selon le président américain sortant Joe Biden, Joseph Aoun est le bon dirigeant pour cette période. Le chef de l'État français annonce se rendre très prochainement dans le pays du Cèdre. Et le Kremlin, de son côté, espère que cette élection permettra la stabilité politique et le redressement économique du pays. Un mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, le redéploiement des forces russes présentes en Syrie depuis 2015 est toujours en négociation. Allié de l'ancien régime, le Kremlin souhaite garder ses 2 bases militaires à proximité de Tartous et à Latakié, des bases très stratégiques dans la région. Notre reporter Manon Chaplin s'est rendu à proximité de la base aérienne d'Amimim.
À l'entrée de la base aérienne d'Amimim, un immense poster de Vladimir Poutine. À ses pieds, des soldats russes font des allers-retours, les bras ballants. Une dizaine de combattants d'HTS leur font face, des canons anti-aériens pointés dans leur direction. Difficile ici d'obtenir la moindre information, l'ordre a été donné de ne pas parler aux journalistes. Un combattant, Abou Haïdi, accepte finalement de discuter.
Il y a encore des Russes à l'intérieur. Normalement, il est prévu qu'ils s'en aillent d'ici la fin du mois, peut-être au début du mois prochain. Il y a aussi beaucoup d'armement et de l'artillerie à l'intérieur. Ils commencent à décharger des convois de 6 ou 7 voitures sortent d'ici plusieurs fois par jour. Il y a également des avions militaires, des avions civils, des avions cargo et des hélicoptères qui en sortent. J'imagine qu'ils vont vers le port de Tartous, mais je n'en suis pas sûr.
Au total, une douzaine de soldats d'HTS entourent la base. La plupart sont hostiles aux Russes, viennent d'Idlib, poche rebelle longtemps bombardée par Moscou. Alors ici, les regards se font noirs, l'hostilité se ressent. On se prépare à tout moment à une altercation et malgré quelques sollicitations des soldats russes,
nous refusons d'avoir des contacts avec eux. Seule la direction des opérations militaires communique avec eux.
D'après ce soldat qui a souhaité rester anonyme, les négociations sont toujours en cours entre le nouveau régime d'Ahmed El-Sharé et le Kremlin pour savoir si Moscou peut garder ses bases militaires en Syrie. Pour l'heure, aucun des deux camps ne communique sur l'avancée des pourparlers. À l'attaquer, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Ces deux dernières années, les températures moyennes sur la Terre ont dépassé la limite de 1,5 degré de réchauffement fixé par l'accord de Paris. Signé en 2015, ce cadre mondial devait pousser les pays du monde entier à prendre des mesures pour notamment limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement de la surface du globe. L'objectif était de ne pas dépasser les températures moyennes mondiales de plus de 1,5 voire 2 degrés par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle, soit avant 1850. Au-delà de cette limite, les conséquences sont catastrophiques pour la planète, selon les experts du GIEC, le groupe des Nations Unies pour le climat. Et une illustration de ce réchauffement climatique. Aux États-Unis, le feu continue de ravager Los Angeles. Les deux principaux incendies qui y font rage étaient ce matin toujours hors de contrôle. Jusqu'à maintenant, 10 personnes ont été tuées. Les autorités s'attendent à voir ce bilan augmenter et près de 200 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. À New York, Loïc Loury.
Le changement climatique est une réalité, affirmait hier Joe Biden en évoquant les incendies qui ravagent Los Angeles. Nous avons la capacité d'y répondre, dit-il, si nous faisons preuve de discernement. Dans l'immédiat, les pompiers, eux, sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe. Une demi-douzaine de feux brûlent toujours dans Los Angeles et son agglomération, dont ceux de Palisades et d'Eaton, déjà classés comme les plus destructeurs à frapper la Cité des Anges. Face à un tel désastre, le gouvernement fédéral a annoncé couvrir les besoins des pompiers pour 180 jours. Près de 400 militaires étaient aussi attendus hier pour les épauler. Mais les prochains jours seront critiques avec une météo particulièrement capricieuse, un temps sec et surtout de violentes rafales de vent qui ne laissent aucun répit aux opérations. Ces incendies pourraient coûter plus de 50 milliards de dollars. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
10 jours avant l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche et impossible changement de diplomatie dans le soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky demande l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Le président ukrainien qui est avec le secrétaire d'État américain Rammstein en Allemagne pour la dernière réunion du groupe de contact, les soutiens militaires occidentaux à Kiev. Ils étaient des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Vienne en Autriche hier pour dire non à un chancelier d'extrême droite, alors que le chef du FPÖ, Herbert Kickl, est chargé de former un gouvernement. C'est une première en Autriche. La confusion dans les rues de Caracas au Venezuela hier soir, réapparue en public pour la première fois depuis 133 jours, la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, aurait été arrêtée puis libérée, à en croire son équipe, des propos démentis par le pouvoir chaviste, tandis que Nicolas Maduro doit être aujourd'hui investi. La correspondance régionale de William Gazo.
La championne de l'opposition qui sortait en moto de la manifestation aurait été, je cite, interceptée, renversée puis emmenée de force, a dans un premier temps expliqué son entourage avant d'annoncer sa libération. De son côté, les autorités ont démenti avoir arrêté la leader anti-chaviste, qualifiant d'invention et de mensonge la version de l'opposition. Avant l'imbroglio, Maria Corina Machado était apparue pour la première fois devant ses partisans depuis l'été dernier, elle qui est visée par un mandat d'arrêt. Montée sur un camion, la femme de 57 ans a harangué ses partisans. « Tout le Venezuela est dans la rue, nous n'avons pas peur », a-t-elle clamé. Tout le Venezuela, pas tout à fait, la manifestation censée être la plus importante depuis celle organisée au lendemain des élections n'a pas rassemblé des dizaines de milliers de personnes comme l'annonçait l'opposition. La journée s'est d'ailleurs déroulée dans le calme. Aujourd'hui, Nicolas Maduro entamera officiellement un troisième mandat consécutif, tandis que son rival Edmundo González a assuré qu'il sera lui aussi présent pour prendre ses fonctions. Les autorités ont promis qu'il serait arrêté s'il mettait un pied au Venezuela. Bogota, William Gazo pour Radio Vatican.
Et dans un message publié hier, les évêques du Venezuela appellent à faire passer le bien commun avant les intérêts particuliers ou partisans et alertent contre les persécutions politiques. Des informations à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Une nouvelle attaque terroriste dans le nord du Bénin. 28 militaires ont été tués mercredi dans la zone dite du triple point, la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Ces dernières années, les attaques ont augmenté dans cette région. Les autorités béninoises les attribuent à des terroristes de l'Organisation de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. « ce matin s'est entouré du cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et de nombreux fidèles que le cardinal Pietro Parolin consacrera la nouvelle église du baptême du Seigneur sur le site d'Al-Martas en Jordanie, un site identifié comme étant la Béthanie au-delà du Jourdain dans l'évangile de Jean, le site du baptême de Jésus. Envoyé spécial du Saint-Père, le secrétaire d'État du Saint-Siège inaugurera ainsi l'une des plus grandes églises du Moyen-Orient avec une capacité de 1000 personnes et de nombreux fidèles se presseront comme tous les deuxièmes vendredis de janvier pour renouveler leurs vœux de baptême. Mais cette église sera aussi un lieu d'accueil pour les pèlerins qui viennent en Terre Sainte. Une véritable joie pour l'église jordanienne dont nous fait part ce matin le père Rifat Bader. Il est curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Amman.
C'est une grande joie. C'est une fierté. C'est l'église la plus proche du Jourdain où Jésus même a été baptisé avec Jean le Baptiste. Ça sera ouvert pour tout le monde. Mais premièrement pour les pèlerins locaux, car nous avons beaucoup de familles qui veulent baptiser leurs enfants au Jourdain ou dans cette église maintenant. Mais ça sera ouvert pour tout le monde avec des messes quotidiennes. Et je pense que beaucoup de touristes, de pèlerins vont venir. Chaque groupe qui vient en Jordanie, il va visiter les sites de pèlerinage et surtout maintenant le baptême avec une messe, une célébration liturgique dans l'église qui va être ouverte vendredi.
Quels sont les projets qui sont prévus autour de cette église?
Nous sommes dans notre jubilé 2025, année de la naissance de Jésus. Et on se prépare aussi pour fêter dans l'année 2030, 2000 années du baptême de Jésus. Alors, je pense avec l'ouverture de l'église maintenant, on va ouvrir 5 années de préparation pour notre jubilé du baptême de Jésus. Vous savez que le site était nommé en 2015 comme site du patrimoine humain international avec l'UNESCO. Et maintenant, on ne peut pas faire de grandes choses là-bas, mais on va améliorer le terrain autour du baptême. Ça sera comme un village touristique. Ça donne une image quelquefois de Lourdes, où il y a un lieu de prière, mais autour du lieu de prière, il y a un village touristique, des hôtels pour encourager les gens.
Au-delà de ce site du baptême, comment la Jordanie veut développer le tourisme religieux ?
La Jordanie fait partie de la Terre Sainte. C'est devenu comme un proverbe en Jordanie. Il y a 5 places pour le pèlerinage. Mont Nebo, site du baptême, Notre-Dame de la Montagne, Saint-Élie et Mekaour. Et c'est un honneur pour nous d'être citoyens ici. Nous sommes très fidèles à notre pays. Nous sommes aussi très fidèles à notre Église. Et entre l'Église et l'État, il y a cette collaboration pour améliorer un peu la réception des touristes ou des pèlerins pour améliorer l'image de la Jordanie comme un lieu de pèlerinage. Malheureusement, cette année et l'année précédente, il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais nous espérons que la paix sera faite en Palestine, car tout affecte la Jordanie. Quand il y a la guerre, il n'y a plus de pèlerins en Jordanie.
Le royaume hachémite, à majorité musulmane, compte 5% de chrétiens. Comment ces sites patrimoniaux favorisent-ils le dialogue interreligieux?
Chez nous, il y a ce dialogue interreligieux entre les musulmans et les chrétiens. Nous avons beaucoup de personnages qui sont mentionnés dans le Coran avec une grande vénération, mais aussi dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Comme Élie, il y a la place de la naissance d'Élie au nord de la Jordanie, il y a la place de l'ascension d'Élie à côté de la rivière du Jourdain. Il y a Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est aussi vénéré dans le Coran comme il a le nom de Yahya. Un site religieux chrétien n'est pas seulement pour les chrétiens. C'est un site national, c'est un site humain qui est pour tout le monde. Alors, on voit toujours beaucoup de monde qui vont prier dans ce lieu.
Voilà, interrogé par Jean-Benoît Harel, le père Rifat Bader, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Amman, était ce matin notre invité. Et comme tous les invités des dossiers de radio de Vatican, l'interview est à retrouver sur notre site internet, mais également sur la plateforme d'écoute Spotify. Merci de votre fidélité. L'actualité revient tout à l'heure en direct à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon vendredi.